Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Pour cet épisode, nous nous tournons vers la clé des ondes. La radio ouvre son antenne et les colonnes de son site de manière régulière à des économistes bordelais dans les clés de l'écho. L'une d'elles s'appelle Crypto-monnaie contre Banque Centrale, une lutte pour la souveraineté monétaire. Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Mathieu Montalban.
Bonjour.
Aujourd'hui avec vous, nous allons nous intéresser aux crypto-monnaies, mais commençons par le commencement. Une crypto-monnaie, c'est quoi ?
Déjà, il faut savoir ce qu'est une monnaie, normalement, et de savoir si ces crypto-monnaies sont vraiment des monnaies. Alors d'abord, une monnaie, c'est normalement quelque chose qui permet des échanges, c'est un moyen d'échange, c'est quelque chose qui permet de calculer la valeur, c'est une unité de compte, normalement les contrats, les dettes, les créances sont libellées en monnaie, et puis c'est une réserve de valeur, un moyen de conserver la valeur dans le temps. Alors les crypto-monnaies visent à reproduire un système d'échange et de réserve de valeur, effectivement, à partir d'un algorithme qui va avoir la propriété de se passer des banques ou des intermédiaires de confiance, des tiers de confiance, donc notamment les banques, bien sûr, mais aussi les banques centrales. Donc, le but, au départ, des crypto-monnaies, c'est l'échange pair à pair, l'échange monétaire pair à pair, sans contrôle et en protection de l'anonymat, une question de privacy.
Par qui et pourquoi les crypto-monnaies ont-elles été inventées ?
Alors, par qui ? Déjà, il y a plusieurs crypto-monnaies, mais en tout cas, le Bitcoin, on ne sait pas. Ça a été inventé par un codeur ou un groupe de codeurs qui se fait appeler Satoshi Nakamoto, qui a décrit dans un petit livre blanc, en quelque sorte, le principe de fonctionnement du Bitcoin et de son projet. L'idée, au départ, vient du monde qu'on appelle le monde cypherpunk, issu du numérique. C'est des gens qui sont très proches des questions cryptographiques et qui veulent garantir la privacy, éviter que les données appartiennent à l'un ou l'autre. Et il y avait eu un certain nombre d'innovations qui ont été combinées par ce Satoshi Nakamoto, qui ont donné le Bitcoin, qui vise, au fond, à se passer des banques, fondamentalement, et à garantir l'anonymat sur le web dans les échanges monétaires. Voilà. Et donc, si on garantit l'anonymat aussi, on empêche la régulation par la même occasion. Ce qui fait que les premiers, sur le forum du Bitcoin ancestral, les premiers échanges, il y avait énormément de libertariens qui étaient tout à fait enthousiastes, crypto-enthousiastes, on pourrait dire, sur le projet de Satoshi Nakamoto. Et par la suite, eh bien, il y a eu tout un tas d'autres crypto-monnaies qui ont été créées. Dont on connaît les fondateurs. Alors, bon, par exemple, Ether, de la blockchain Ethereum, c'est Vitalik Buterin qui en est le fondateur. Et puis, vous en avez d'autres, on pourrait passer la liste à travers, puisque maintenant, il y a des centaines de crypto-monnaies. Le fondement de la confiance de ces actifs, c'est d'être techniquement pas piratable. Voilà l'idée. Donc normalement, ça, c'est censé fonder la confiance et le sentiment de sécurité qu'on peut avoir avec. Donc, de ce point de vue-là, c'est censé protéger, dans la vision des crypto-enthousiastes, disons, censé protéger face aux manipulations monétaires des banques centrales qui sont plutôt inflationnistes ou éventuellement des banques privées. Mais donc ce serait ça l'idée qui serait derrière la sécurité offerte par les crypto-monnaies. Mais attention, ces actifs très volatiles. Quand on dit sécurité, il faut savoir qu'on risque quand même de voir les prix de ces crypto-monnaies s'envoler ou et du jour au lendemain s'effondrer. Donc il faut faire quand même très très attention quand on dit c'est plus sûr. ça dépend pourquoi. You know rappers like to rock pools. I got fools who can't swim in, but I'm collecting a spice like a Fremen. So you fools can step in and get to choosing your weapon, because the deafening roar of indefinite war is epic. I found a new way to dip with the people. I generate an address, then I generate a sequel. I get medieval when I'm taking payment, because I don't want the NSA all stuck up in my anus. Yeah, and I'm a Bitcoin baron, I'm scaring the status quo. Got that crypto going and that foul to flow. In the algorithm, gonna get him until prison sentence on the prison. And that's a nerdy living. I'm a Bitcoin baron, I'm scaring the status quo. Got that crypto going and that foul to flow. In the algorithm, gonna get him until prison sentence on the prison.
Vous évoquez un projet anarcho-capitaliste dans votre chronique. Pourquoi ce qualificatif, cet oxymore presque ?
Ce sont les libertariens qui se sont toujours appelés anarcho-capitalistes. Ce n'est pas une expression nouvelle. Hein. C'est dès les années 70, ils se considèrent comme anarcho-capitalistes. Et moi, je crois malheureusement que le seul anarchiste qui peut fonctionner, c'est celui-là, hélas. Et pour le coup, leur projet va assez loin. Donc, c'est malheureusement pour moi le problème. Alors, donc c'est le libertarianisme, c'est la même chose. C'est l'idée, au fond, que il faut supprimer entièrement l'État et il y aura des régulations marchandes et, pour le coup ici, digitales, autonomes, qui se mettront en place et tout fonctionnera. Les individus pourront faire ce qu'ils veulent. C'est fondamentalement individualiste comme projet, radicalement individualiste et radicalement capitaliste. Donc, oui, c'est pour ça que c'est anarcho-capitaliste. Pas de régulation, un individu, et le marché.
Quel est l'intérêt pour un particulier de s'intéresser à la crypto-monnaie ?
Il peut y avoir des différents intérêts, mais il peut y avoir de la curiosité, déjà. Bon, moi, j'ai été assez surpris de voir qu'il y a des gens que je ne soupçonnais pas qui s'y connaissaient très bien. Donc, il y en a qui sont vraiment intéressés sur le projet politique hein, qu'il y a derrière la crypto-monnaie. Donc, l'idée de privacy, on va se sortir des banques centrales, on veut protéger cette idée-là, hein, l'idée de se réapproprier la monnaie d'une certaine façon. Ensuite, il y a un intérêt financier éventuellement, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent pouvoir faire des gains sur la spéculation sur ces crypto-monnaies. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut savoir si ce sont vraiment des monnaies, parce que elles sont surtout utilisées comme moyen de faire de la spéculation, donc comme des actifs de réserve plutôt. Donc ça, c'est une autre raison. Et puis l'autre raison aussi, c'est éventuellement pour les gens qui sont alors sortis du système bancaire, mais malgré eux, si je puis dire, c'est une façon de créer des moyens de paiement alternatifs au circuit bancaire traditionnel. Alors vous pouvez le faire volontairement parce que vous êtes très riche et donc vous pouvez vous permettre d'acheter, enfin de tenter l'expérience des crypto-monnaies, mais par exemple pour le projet de Facebook, là, anciennement Libra, qui a été renommé Diem, ceux qui visent, notamment, ce sont les débancarisés des pays en voie de développement ou des pays où les États ont fait faillite et autres. Donc ce serait l'idée qu'il y aurait un accès libre à des comptes numériques en ligne via ces crypto-actifs. Ce projet, vous l'avez rappelé, a été pensé contre les banques, et pourtant celles-ci s'en emparent. Pourquoi et comment ? Bon, bah, elles ont été un peu forcées. Disons qu'au départ, elles étaient extrêmement méfiantes, parce qu'elles voyaient bien qu'il y avait une concurrence possible de ce modèle d'échange sans banque. Et en même temps, c'est devenu des actifs sur lesquels on peut placer. Et une partie du métier des banques, enfin, elles ont des filiales de gestion d'actifs, hein, c'est-à-dire elles ont des SICAV, elles ont des fonds communs de placement, gèrent des assurances vie, etc., pour le compte de tiers. Donc, dans ce cas-là, si vous avez des clients qui veulent pouvoir investir ou profiter des augmentations de valeur de ces marchés de crypto-monnaies ou crypto-actifs, eh bien, fatalement, ces banques s'y intéressent pour proposer à leurs clients ce type d'actifs ou ce type d'investissement. Autre raison, il y a tout un système de financiers alternatifs qui est en train de se fabriquer, ce qu'on appelle la DeFi, Decentralized Finance, sur la blockchain d'Ethereum. Donc là aussi, évidemment, quand il s'agit de créer des actifs financiers, c'est quand même une partie du métier des banques, un petit peu, parfois, de savoir comment les designer. Donc évidemment, vous pouvez avoir des banques qui pourraient s'intéresser à ce projet de DeFi, même si ça serait assez paradoxalement pour réintermédier ce qui serait décentralisé. Et puis, parfois, alors c'est le cas pour certaines entreprises qui sont adossées à des crypto-monnaies, par exemple, qui peuvent avoir un intérêt pour faire du transfert de fonds, d'accord ? Parce que c'est un moyen pour les transferts de fonds transfrontaliers de réduire les coûts de transaction. Enfin, en général, ça coûte moins cher de faire des transferts de fonds via une crypto que de le faire via le système bancaire traditionnel. En tout cas, ça peut réduire les frais de transaction assez nettement.
Quel pourrait être l'avenir pour ces crypto-monnaies ? Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'elles remplacent les monnaies traditionnelles ?
Personnellement, je ne pense pas. La seule raison qui pourrait, à mon avis, amener à ça serait que les États se suicident en acceptant le principe que les crypto-monnaies soient écours légales. Ce qui me semble, bon, comme a priori, on peut penser que assez souvent, mais pas tout le temps, malheureusement. Les États sont rationnels, je doute qu'ils le fassent, en tout cas leur banque centrale leur dirait de ne pas le faire, sans aucun doute. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que au fond, les États ont le pouvoir d'imposer en partie le moyen de paiement sur leur territoire, en forçant, par exemple, de payer les impôts dans leur monnaie. Donc ça, évidemment, aucune crypto-monnaie ne peut l'imposer. Ensuite, y a un intérêt à avoir une politique monétaire, quand même, qui permet de contrôler les fluctuations macroéconomiques. Donc ça aussi, c'est assez difficile pour un État et sa population d'accepter le principe qu'il n'y ait plus de contrôle de la politique monétaire. Donc ça paraît un peu délicat. Donc je ne pense pas qu'il y aura substitution totale des crypto-monnaies par rapport aux monnaies fiduciaires, enfin, en tout cas souveraines, traditionnelles, ce qui ne veut pas dire qu'il puisse pas y avoir des formes de cohabitation ou d'hybridation. Alors, par exemple, les banques centrales, depuis quelques années, et c'est en train de se matérialiser aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, sont en train de fabriquer des monnaies digitales de banques centrales, donc c'est-à-dire un équivalent, entre guillemets, des crypto-monnaies, mais là où c'est paradoxal, c'est que c'est des crypto-monnaies centralisées par les banques centrales. Donc, évidemment, c'est pas le même projet, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y aura un actif numérique émis par les banques centrales, et pour lequel, normalement, à peu près tous les utilisateurs auraient un compte qui serait éventuellement différent du compte en banque ou adossé à un compte bancaire traditionnel.
Un dernier mot, Mathieu, pour essayer de comprendre avec vous en quelque sorte le sens de ce phénomène. Est-ce que pour vous, la crypto-monnaie est un outil qui peut contribuer à réguler le capitalisme ou au contraire accélérer sa dérégulation ?
Bon, bah, évidemment, c'est un outil, au départ, qui vise à accélérer sa dérégulation. En gros, ce que reprochent les libertariens en général, c'est que c'est la régulation du capitalisme qui entraîne sa chute et pas sa dérégulation. C'est parce que les banques centrales ont trop de pouvoir, c'est parce que les banques ont trop de pouvoir qu'il faut supprimer ce pouvoir étatique, si je puis dire, ou vertical, et le rendre à la foule des échangistes sur le marché. Voilà. Donc, si on réduit les monopoles dans cette vision, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Donc, c'était vraiment un projet de dérégulation. Mais j'attire votre attention qu'on peut très bien penser ou essayer de réfléchir à des crypto-monnaies sociales où les modes d'émission de la monnaie ne seraient pas ceux du Bitcoin ou l'Ether ou autre chose, si vous voulez. On peut très bien programmer le type de système monétaire qu'on souhaite. Hein, ça, c'est un peu comme on veut. Et par exemple, vous avez une crypto-monnaie qui est assez peu connue, qui s'appelle la JUN, la G1, qui est un petit projet développé par des militants plutôt anarchistes, hein, vraiment au sens classique du terme, libertaires, pas libertariens, qui essayent d'utiliser une technologie blockchain pour avoir un projet de revenu universel versé par cette monnaie qui serait une crypto-monnaie. Voilà. Donc on peut aussi penser d'autres formes de crypto-monnaie que celles qu'on connaît le mieux.
Merci beaucoup Mathieu Montalban d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre chronique sur la clé des ondes, crypto-monnaie contre banque centrale, une lutte pour la souveraineté monétaire. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Guillaume Cascara, Clara Etchari, Lisa Feignet et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.